Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens de ce vendredi 29 juin 2010, pardon, 2018. Bonjour Mathieu, ça va?
Oui.
Oui, bon, mais c'est ça. Merci.
C'est des choses qui arrivent.
Moi aussi,
des
ça journées. Va. Alors,
oui,
allez-y.
Oui, tout à fait. Journée du 29 juin. Nous sommes la journée mondiale des astéroïdes. Mais oui. Que s'est-il passé dans l'histoire? Je remonte en 1894 à Montréal. Une bombe détruit les locaux du journal Witness. 1930, le Vatican canonise 8 jésuites français, les martyrs, mis à mort par des Iroquois entre 1642 et 1649. 1937, en cette journée chaude, rappelons-nous que Joseph Armand Bombardier déposait un brevet pour sa snowmobile, un modèle de 7 places. 1949, en Afrique du Sud, le racisme devient officiel sous le nom d'apartheid. Le pont Champlain, en 1962, entre Montréal et Brossard, s'ouvrait à la circulation. 29 juin 1965, le ministre fédéral de la Justice, Guy Favreau, démissionne dans la foulée du scandale concernant le trafiquant Lucien Rivard. 1967, la loi créant les cégeps entre en vigueur au Québec. La Cour suprême des États-Unis, en 1972, juge que la peine de mort n'est pas constitutionnelle, car cruelle et inusitée, et suspend les exécutions. En 1976, elle statuera que les États peuvent l'infliger, pourvu que ce soit constitutionnel. 1977, à Toronto, le directeur du Devoir et futur chef libéral, Claude Ryan, prédit l'échec du référendum sur la souveraineté au Québec. La Banque nationale canadienne, en 1979, et la Banque provinciale annoncent qu'elles vont former la Banque nationale. 1990, le parti ministériel et l'opposition confient à la commission Bélanger-Campeau la consultation générale sur l'avenir du Québec. Le Sénat adopte à Ottawa en 2000, le 29 juin, la loi dite de la clarté référendaire. Je vais prendre mon temps. En 2001,
ah, cette canicule!
C'est bien des affaires en même temps. En 2001, les autorités serbes remettent l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic au tribunal pénal international. En 2010, un membre influent de la mafia montréalaise, Agostino Contreras, est abattu devant son commerce de Saint-Léonard à Montréal. Et la reine Elisabeth, 29 juin 2010, arrivait au Canada avec le prince Philippe pour une visite de 9 jours.
Elle ne serait pas venue hier, aujourd'hui, parce que paraît-il qu'elle est souffrante.
C'est vrai.
Et oui.
Et en 2011, les journalistes Hervé Guesquière et Stéphane Taponnier sont de retour chez eux en France après avoir été retenus en otage pendant 1 an et demi en Afghanistan. Et c'est tout.
Oh, bon anniversaire!
Oui, excusez-moi. Le micro était juste dans le bas de ma feuille. Le peintre flamand Rubens est né un 29 juin. Nous avons Antoine Saint-Exupéry, qui est né à Lyon en 1900, et Pierre Perrault, le cinéaste québécois, qui est né en 1927, un 29 juin. Et pour ce qui est des décès, Diane Hébert, la première Québécoise, bénéficie d'une grève de cœur poumon est née en 1957 et décédée en 2008. Et Catherine Hepburn, qui était née en 1907 et décédée en 2003.
Merci. À la une de la presse, attaque meurtrière au Maryland, terreur dans un journal. 5 employés de Capital Gazette sont tombés sous les balles hier à Annapolis. Le présumé tueur avait intenté en vain une poursuite pour diffamation contre l'entreprise. Belvedere, Camillien Houde, mort d'un cycliste en 2017, encore beaucoup de manœuvres illégales. Société québécoise du cannabis cherche conseiller en pot à 14 $ de l'heure. cinéma, Ant-Man and the Wasp, la recette Marvel. Le 20e opus prend l'affiche et les cinéphiles en redemandent. Alors, tu ris au Maryland, le tireur accusé de 5 meurtres prémédités, c'est à la mise à jour de la presse. 5 accusations de meurtre au premier degré ont été déposées contre Jarod W. Ramos, l'homme qui est soupçonné d'avoir tué 5 personnes jeudi dans les bureaux du journal The Capital Gazette à Annapolis, au Maryland. Ramos devrait se présenter devant la justice américaine à 10h30, heure locale, vendredi. Cette attaque qui a aussi fait 2 blessés semble être l'une des plus meurtrières contre des journalistes dans l'histoire des États-Unis, ont affirmé la police et des témoins. Le suspect aurait aussi utilisé des grenades lacrymogènes et les autorités ont affirmé avoir trouvé ce qui serait un engin explosif dans l'édifice abritant le journal. Des menaces avaient été lancées contre le journal sur les réseaux sociaux avant la fusillade, a indiqué la police. Il semblerait aussi qu'une querelle de longue date opposait M. Ramos au journal. Le suspect a poursuivi la publication sans succès en 2012 en lui reprochant d'avoir porté atteinte à sa réputation lors d'un reportage sur une affaire de harcèlement criminel le concernant. Il aurait ensuite entrepris de harceler plusieurs employés sur Twitter. Dans un message, Ramos écrit qu'il serait bien que le journal cesse d'être publié, puis ajoute que ce serait encore mieux que 2 journalistes cessent de respirer. Les 5 victimes sont les journalistes Robert Hyacin, le frère de l'écrivain Carl Hyacin, Gerald Fishman, John McNamara et Wendy Winters, en plus d'une employée de bureau, Rebecca Smith. Le lieutenant Ryan Fresher, porte-parole de la police du comté, a affirmé que les policiers sont arrivés très rapidement sur les lieux et qu'ils ont interpellé le tireur sans échange de coups de feu. Un journaliste du Capital Gazette a écrit sur Twitter qu'un seul individu avait ouvert le feu sur plusieurs personnes. De Capital Gazette et d'autres journaux, dont la Maryland Gazette, appartiennent au Baltimore Sun Media Group. Sur Twitter, le président Donald Trump a écrit qu'il avait été mis au fait de la situation avant de s'envoler au Wisconsin, où il prenait part à l'inauguration d'une usine du géant Foxconn. « Mes pensées et mes prières vont aux victimes et à leurs familles. Merci à tous les premiers répondants qui sont actuellement sur les lieux », a dit le président. Cette tragédie survient après des mois d'attaques contre les médias en ligne et ailleurs de la part de ceux qui leur reprochent de faire des fausses nouvelles, en commençant par le président Trump. Et le journal publie une édition en hommage aux victimes. Nous n'avons pas les mots. Malgré le deuil, le Capital Gazette a tenu à publier à son édition de vendredi pour rendre hommage Nous n'avons pas les mots. Malgré le deuil, le Capital Gazette a tenu à publier son édition de vendredi pour rendre hommage à ces journalistes tués. Les rescapés de la fusillade d'Annapolis ont fait avec les moyens du bord jeudi soir pour boucler leur édition de vendredi. Leur une est simple, factuelle et glaçante, sans adjectif. 5 personnes abattues au Capitole, est-elle titrée. Malgré l'aménagement du belvédère Camillien-Houde, toujours des manœuvres dangereuses. Au cours des dernières semaines, la presse s'est rendue à 5 reprises au belvédère Camillien-Houde et le constat y est frappant. Bien que l'endroit soit situé à moins de 500 mètres du vélo blanc accroché en hommage à Clément Ouimette, mort en octobre dernier après avoir heurté de plein fouet une voiture qui effectuait illégalement un demi-tour, virage en U, des dizaines d'automobilistes y procèdent toujours à des manœuvres illégales. Les délinquants commettent essentiellement 3 infractions. Un virage à gauche à la sortie du belvédère en direction du sommet de la montagne, un changement de voie suivi d'une accélération en contresens pour atteindre l'entrée du site ou carrément un demi-tour au milieu d'un virage. Les 2 dernières manœuvres sont vraisemblablement destinées à éviter un détour de quelques minutes. S'ensuivent invariablement des freinages d'urgence et un concert de klaxons, sans compter les gestes désapprobateurs de cyclistes circulant à une vitesse dépassant souvent les 50 km à l'heure. Les policiers sont embêtés par la configuration des lieux. En effet, lorsqu'ils assistent à une infraction au Belvédère, les agents affectés au Mont-Royal peuvent difficilement prendre en chasse un contrevenant sans eux-mêmes exécuter une manœuvre qui compromettrait la sécurité des cyclistes et des piétons. Une affiche publicitaire qui cherche à vendre de la bière forte de marque Boris en piquant l'orgueil des consommateurs a été dénoncée hier par Éducalcool et plusieurs internautes. « Si elle est trop forte, c'est que tu es trop faible », clame la publicité dont au moins un exemplaire est toujours présent rue Hochelaga à Montréal. Les deux produits qui figurent sur l'affiche Boris Bold et Boris Slam sont des bières contenant respectivement 8,6 % et 10,5 % d'alcool. C'est le groupe Gelozo, derrière la boisson controversée Fucked Up, qui exploite la marque de commerce Boris depuis quelques années au Québec. Le Fucked Up, 11,9 % d'alcool, visait un jeune public et a été retiré des tablettes après la mort d'Athéna Gervais, 14 ans, qui en avait consommé pendant la pause du midi près de son école secondaire en mars dernier. L'origine de l'affiche est toutefois incertaine. L'entreprise assure qu'elle date d'avant 2018, mais se refuse à donner plus d'explications. Il va sans dire que l'affiche incite à la consommation excessive et qu'elle joue sur le goût du risque qui attire tant les jeunes, ce qui est particulièrement malvenu, car c'est un groupe fort vulnérable, dit Hubert Sassy, directeur général d'Éducalcool. Sur l'Internet, de nombreuses personnes ont vivement critiqué le message publicitaire. Un médecin, David Lucier, l'a ainsi qualifié d'irresponsable, alors que l'internaute qui a fait connaître la situation a dénoncé une incitation à boire en jouant sur l'estime de soi. Un suspect qui était en cavale depuis quelques jours a formellement été accusé du meurtre au second degré de Nicole Chouinard. Christopher Oliveira a comparu hier après-midi au palais de justice de Laval devant des proches de la victime. Le Lavallois aurait tué la femme de 71 ans entre le 22 et le 23 juin, indique la dénonciation déposée au greffe criminel. Selon ce document, le véritable nom de l'accusé est Christopher Oliveira et non Christophe Oliveira, comme l'avait désigné la police. L'homme de 31 ans est resté immuable pendant sa brève comparution. Les 28 dirigeants de l'UE, Union européenne, ont trouvé un accord hier soir sur l'immigration lors d'un sommet tendu à Bruxelles que l'Italie menaçait de faire capoter faute d'engagement précis de ses partenaires européens. Concernant l'accueil des migrants, les dirigeants de l'UE 28 se sont accordés sur les conclusions du sommet, y compris la migration, annoncée sur Twitter le président du Conseil européen, Donald Tusk, hier soir. Les détails de l'accord n'ont pas été précisés dans les médias. C'est la coopération européenne qui l'a emporté, s'est aussi félicité le président français Emmanuel Macron, devant la presse, jugeant que la solidarité que nous devons aux pays de première entrée a été actée. Des militaires américains et des plongeurs britanniques ont prêté main forte hier aux sauveteurs tentant de retrouver 12 enfants et leur entraîneur de soccer bloqués depuis 5 jours dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande. Avec la pluie de mousson incessante dans la province de Chiang Rai, le niveau de l'eau continue de monter dans la cavité où les enfants âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans sont pris au piège depuis samedi. Les plongeurs britanniques et les militaires américains qui avaient dû rebrousser chemin une première fois à cause de la montée des eaux ont tenté hier une nouvelle expédition à travers des puits naturels à la verticale de la grotte, mais ils ont dû une nouvelle fois faire marche arrière.
je ne sais pas trop. Je connais tes défaites.
Le cœur assez gros, chanté par Alex Nevsky.
À la une du Devoir de ce 29 juin 2018, États-Unis fusillade dans un journal à Annapolis. Un homme a tué 5 personnes avant d'être arrêté. Et on a une photo, photographe et journaliste de Capital Gazette, Joshua McCarrow et Chase Cook ont accompli leur tâche, installés dans une camionnette en dépit de l'attaque qu'ils ont subie et au cours de laquelle 5 de leurs collègues ont trouvé la mort. Ils travaillaient donc au journal du lendemain de la tragédie, le quotidien édition du vendredi 29 juin. Neutralité religieuse, nouvel échec du Québec devant la Cour. L'article sur la prestation et la réception de services à visage découvert reste suspendu. Au cœur d'un Steinway, plongé dans le ventre d'un acteur clé du festival de jazz, Guillaume Bourgault-Côté, qui nous parle de ce piano, de ces pianos toujours à queue et toujours noirs. La Cour supérieure inflige un second camouflet à la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Les lignes directrices sur le traitement d'une demande d'accommodement religieux n'y changent rien. L'article 10 de la loi 62 prévoyant qu'une personne offrant ou recevant un service public doit avoir le visage découvert n'entrera pas en vigueur dimanche, comme l'escomptait le gouvernement libéral, a tranché le juge Marc-André Blanchard. Accurso veut éviter la prison. Le rôle de Tony Accurso dans le système de partage de contrats de Laval justifie une peine de prison de 5 ans, estime la Couronne, tandis que la Défense suggère plutôt qu'il purge de 12 à 24 mois dans la collectivité. Dans un dossier de collusion de cette ampleur-là, on va vouloir qu'il y ait une exemplarité. Mais ce ne sera pas l'exemplarité que le tribunal populaire va vouloir lire ou entendre, prévient la juge à la retraite Nicole Gibault, qui assistait jeudi à titre d'observatrice aux observations sur la peine au procès de M. Accurso. Le juge James Brunton, qui préside le procès, devra se pencher sur la position de M. Accurso dans la pyramide des joueurs impliqués dans le stratagème. Arrêté en 2013 dans le cadre de l'opération Honoré, M. Accurso est le seul des 37 accusés dans cette affaire à avoir choisi de se défendre devant les tribunaux. Jusqu'à présent, c'est l'ancien maire de Laval, Gilles Vaillancourt, qui, après avoir reconnu sa culpabilité, a été condamné à la peine la plus sévère, soit 6 ans de prison ferme. Il a été libéré sous condition l'année suivante. En droit, il y a l'harmonisation des peines. Alors, M. Accurso ne peut pas écoper d'une peine plus sévère que celle du maire, qui était l'âme dirigeante du système, rappelle l'ancienne juge Gibault. À titre de président des entreprises de construction Simard-Baudry et Louis Bourg, Tony Accurso a tiré avantage du stratagème collusoire Lavallois pendant 14 ans, dit la Couronne. Les contrats remportés par l'empire de M. Accurso représentaient la part du lion, ce qui le place assez haut dans la pyramide, estime la Couronne. Les firmes ont ainsi obtenu pour 95 millions de dollars en contrats publics de 1996 à 2010. Le juge Brompton rendra sa décision le 5 juillet. Une place de l'espoir plutôt qu'une murale du centenaire, la mort tragique du jeune Freddy Villanueva, tué il y a 10 ans sous les balles des policiers lors d'une altercation à Montréal-Nord, sera plutôt commémorée par une place publique aménagée dans le parc Henri Bourassa où s'est déroulé le fatal accident. Constatant que le projet de murale ne faisait pas consensus et polarisait les résidents, la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, a opté pour le réaménagement du parc qui comprendra l'implantation de nouveaux jeux d'eau et d'une nouvelle pataugeoire, d'un terrain de soccer-football à surface synthétique et d'un pavillon pour accueillir les jeunes lors d'événements de groupe. Aménagée dans la partie sud-est du parc, la place publique de 11 000 pieds carrés, nommée Place de l'Espoir, sera pour sa part égayée d'une œuvre d'art, mais le nom de Freddy Villanueva n'y apparaîtra pas. Travailleurs agricoles, la juge a pris la cause en délibéré. La cause de la dizaine de travailleurs temporaires guatémaltèques visés par un décret d'expulsion est maintenant entre les mains d'une juge qui a pris la chose en délibéré au terme de 2 jours d'audience devant la Cour fédérale. Cette décision très attendue permettra non seulement de statuer sur le sort de ces travailleurs agricoles qui attendent depuis 2 ans de savoir s'ils pourront retourner voir leur famille, avec l'autorisation de revenir travailler ici, mais aussi d'étoffer la jurisprudence, a indiqué l'avocate Suzanne Ramirez. En octobre 2016, une quinzaine de Guatémaltèques, ils sont maintenant 12, ont été arrêtés par des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada qui les soupçonnaient de travailler illégalement au pays. Or, ces travailleurs allèguent plutôt qu'ils ont été victimes d'une fraude de la part d'une entreprise nommée les Progrès Inc. Le propriétaire de celle-ci, Esvin Cordon, les aurait incités à quitter l'employeur pour lequel ils travaillaient en leur promettant de meilleures conditions et un nouveau permis de travail en règle. On souffrait beaucoup dans notre ancien travail, alors on l'a cru. On n'a jamais voulu faire quelque chose d'illégal, a expliqué Juan de Jesus Fernandez Solis, l'un des travailleurs saisonniers. Or, en quittant le premier employeur avec qui ils étaient liés par contrat, ses compatriotes et lui ne savaient pas qu'ils perdaient ainsi leur statut légal. Pour Juan de Jesus Fernandez Solis et ses compagnons, le combat le plus important est celui pour fraude. On veut qu'il, Esvin Cordon, paye pour ça, et c'est la raison pour laquelle on reste. Un total de 133 hommes politiques ont été tués depuis le début de la campagne électorale au Mexique, a indiqué jeudi à l'AFP le cabinet d'études ETELEC. Parmi les victimes figurent 20 candidats et 28 pré-candidats à des mandats locaux aux élections générales du 1er juillet, où plus de 18 000 mandats sont en jeu dans le pays. Les poids lourds seront interdits sur le pont Honoré-Mercier aux heures de pointe à cet été. Cette mesure vise à alléger la circulation lourdement touchée par des travaux amorcés vendredi dernier et qui forcent la fermeture de voies sur le pont. Les travaux doivent se poursuivre jusqu'au 20 août. L'interdiction des poids lourds a été abordée lors d'une rencontre tenue jeudi matin entre le ministère des Transports et les maires des villes de banlieue au sud-ouest de Montréal à Châteauguay. La possibilité d'offrir la gratuité des transports en commun pendant la période de travaux est par ailleurs étudiée. Présent à la rencontre, le ministre des Transports, André Fortin, a cependant souligné que les transports collectifs ne sont actuellement pas utilisés au maximum. Lafarge inculpé pour complicité de crimes contre l'humanité. Le cimentier aurait financé une entreprise terroriste. C'est une décision historique selon les parties civiles. Le cimentier franco-suisse Lafarge a été inculpé jeudi, notamment sous l'accusation rarissime de complicité de crimes contre l'humanité, dans le dossier explosif du financement présumé du terrorisme en Syrie. Les magistrats ont estimé avoir réuni des indices graves et concordants contre le cimentier pour ordonner son inculpation pour complicité de crimes contre l'humanité, financement d'une entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'anciens salariés de son usine syrienne de Jalabiya, au nord du pays, et violation d'un embargo, a-t-on appris de sources judiciaires. Le groupe devra s'acquitter d'une caution de 30 millions d'euros dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Membre du conseil d'administration de Lafarge Holcim, Paul Desmarais, fils, avait affirmé le 11 mai lors de l'Assemblée annuelle de Power Corporation que les administrateurs du cimentier n'avaient jamais été au courant des malversations citées par la justice française. Bonne nouvelle en terminant concernant Eugénie Bouchard. Elle s'est qualifiée pour le tableau principal du tournoi de Wimbledon. La Québécoise a surpris la deuxième tête de série du tableau des qualifications, la Colombienne Mariana Duque-Marino, en 2-7 de 6-3.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
L'asphalte est chaud des pieds des petits voisins portugais le savent. De la montagne descend un grand coulis de lave. Oh, couché dans mon bain avec de l'eau, de la glace pis du vin. Je me rappelle qu'on était bien. Oh, 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 oh.
Zébulon, il fait chaud, il fait encore chaud. Quand l'album est sorti en 1996, il devait faire chaud aussi.
Journal de Montréal de ce vendredi, l'horreur en direct, tuerie dans une salle de nouvelles aux États-Unis. À Curceau, au bord de la faillite. Un nouveau pont Mercier dans 5 ans. Et des idées de sortie pour les vacances, cahier spécial de 24 pages à l'intérieur. Et je commence avec la chronique de José Legault intitulée « Devoir de protection ». Lundi, en fin de journée, je revenais des cantons de l'Est. En passant devant une garderie, je l'ai tout de suite reconnue. Nichée au coin de la rue William, à Montréal, elle était là. Le lieu même où la semaine dernière, un poupon de 6 mois est mort après avoir été oublié dans la voiture par son père. Inutile d'épiloguer trop longuement sur une telle tragédie. Des parents anéantis, 2 familles élargies dévastées. Des premiers répondants traumatisés. N'en jetez plus. Avec raison, la fontaine de larmes déborde déjà. En passant devant la garderie, la colère m'est remontée dans la gorge comme elle l'avait fait en 2003 et en 2016. La même horreur, dans les mêmes circonstances, s'était produite à Verdun, puis à Saint-Jérôme. 3 vies fauchées par un oubli que nous pourrions tous faire. La vie des jeunes parents, on le sait, est de plus en plus exigeante. Leur charge mentale et physique est constante. Avec l'incessant tourbillon du boulot, de la garderie, des courses, des repas, des bobos, sans compter la pression sans précédent d'être toujours disponible au bout d'un téléphone dit intelligent, il y a de quoi en perdre des bouts, même les plus précieux. On cherche des moyens de prévention. On parle d'applications spéciales pour les parents sur leur téléphone. Comme rappel, on parle de les encourager à laisser leur sac à main ou leur porte-documents sur le siège arrière avec leur enfant, etc. De bonnes idées, c'est sûr. Leur faiblesse, par contre, est justement d'ignorer le train de vie souvent frénétique des jeunes parents qui, malgré les meilleures suggestions du monde, peut tout de même mener à l'oubli de l'essentiel. Leur autre faille est d'être aléatoire et purement individuel. Ce sont pourtant des vies d'enfants dont il est question, des vies confiées à des garderies, lesquelles, de toute évidence, sont encore trop rares à prendre elles-mêmes l'initiative de communiquer avec les parents dès qu'un enfant manque à l'appel, ce qui, très franchement, échappe à l'entendement. Dans une telle situation, c'est au pouvoir public d'agir, plus précisément au ministre de la Famille, Luc Fortin. Il en va de la sécurité des enfants. C'est pourquoi le ministre doit imposer à toutes les garderies, publiques ou privées, l'obligation de communiquer avec les parents dès que l'absence non prévue d'un enfant est constatée. Or, selon la presse, le cabinet du ministre s'y refuserait. La raison? On ne pourrait pas faire de parallèle entre les présences prises dans les écoles et celles en garderie, puisque l'instruction est obligatoire alors que ce n'est pas le cas pour l'utilisation des services de garde. Comme réponse, c'est pitoyable. Depuis quand est-ce que des mécanismes publics de protection visant à assurer la sécurité des citoyens reposent sur le prérequis absurde d'une activité obligatoire? Dans ce cas-là, annulons le code de la route puisque conduire une voiture n'est pas une activité obligatoire. Qu'attend le gouvernement pour exercer son devoir de protection? C'est donc la chronique de José Legault d'aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Dur pour le Parti libéral, la sommelière Jessica Arnoy renonce à se porter candidate. Recrue vedette annoncée lors du dernier Conseil général, la femme d'affaires derrière la marque de vin Bu ne portera pas les couleurs libérales lors de la prochaine lutte électorale en raison de ses obligations contractuelles. C'est ce qu'a fait valoir le président de la campagne du PLQ, Alexandre Taillefer, au cours d'un échange de courriel avec notre bureau parlementaire. Le timing n'est pas bon pour le 1er octobre, a-t-il précisé. L'abandon de cette femme d'affaires s'ajoute à la multitude de ministres et députés libéraux qui ont choisi de ne pas solliciter un autre mandat. Et l'hécatombe au PLQ ne semble pas terminée. À l'instar de 18 autres de ses collègues libéraux, la députée Rita De Santis a annoncé hier qu'elle ne sera pas candidate, elle non plus, aux prochaines élections. Le nom de la conseillère municipale Chantal Rossi circule comme possible candidate libérale pour succéder donc à Rita De Santis. En grande réflexion, le député de Marquette, François Ouimet, pourrait lui aussi annoncer son retrait de la vie politique sous peu, selon nos informations. Malgré les allégations d'inconduite sexuelle à son égard, le député d'Argenteuil, Yves Saint-Denis, pourrait se représenter comme indépendant à l'élection du 1er octobre. Yves Saint-Denis a rendu publique une vidéo mercredi soir sur son site Facebook dans laquelle il affirme vouloir mener une consultation populaire pendant l'été afin de décider s'il se représentera comme indépendant aux prochaines élections le 1er octobre. M. Saint-Denis a dû se retirer du caucus libéral en avril dernier après qu'une enquête ait été ouverte par les dirigeants du parti sur des allégations d'inconduite sexuelle. Une employée dit avoir reçu une photo sexuellement explicite de M. Saint-Denis en 2014. Il avait une usine de speed dans le garage familial. Un père de trois enfants dont la vie financière a été ruinée après avoir été arrêté avec les capacités affaiblies a tenté de se refaire en transformant son garage en usine à fabrication de méthamphétamine. Benoît Dessel, 41 ans, avait un bon travail comme directeur des ventes dans un concessionnaire automobile. Mais il a dû abandonner son emploi lorsqu'il a été arrêté en 2011 avec les capacités affaiblies. Il a par la suite accumulé des dettes auprès de prêteurs sur gage et s'est caché d'eux pendant un moment. Afin de les rembourser, l'homme de Farnham a accepté de transformer son garage en usine pour fabriquer de la drogue. Lorsque les policiers ont perquisitionné à sa résidence des Cantons de l'Est le 14 mars 2017, ils y ont trouvé un véritable arsenal chimique, un peu comme dans la série Breaking Bad. Le juge de la Cour du Québec, Éric Van Schestein, l'a récemment condamné à 7 ans de prison. Dans le garage, on trouvait tout le nécessaire pour produire 3,1 millions de pilules de méthamphétamine. La procureure de la Couronne, Élise Côté-Lebrun, a rappelé la forte dépendance que cause la méthamphétamine qui crée de nombreux troubles psychiatriques chez ses adeptes. L'âge des utilisateurs se situe généralement entre 15 et 40 ans. Une surdose peut provoquer la mort. Et il sera maintenant interdit de posséder un laser portatif à Montréal, Toronto, Vancouver ou à 10 km autour d'un aéroport et les Canadiens pris en flagrant délit s'exposeront à une amende de 5 000 $. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre des Transports fédéral Marc Garneau. L'initiative vise à réduire le nombre d'incidents de laser qui sont pointés vers des avions ou hélicoptères et qui peuvent aveugler momentanément le pilote. Une frappe au laser est une frappe de trop, a lancé le ministre des Transports fédéral Marc Garneau. Ces mesures sont pour protéger les gens, qu'ils soient à bord des avions ou au sol, contre les personnes dont les gestes dangereux mettent des vies en péril. Les lasers ne sont tout simplement pas des jouets.
suis un garçon qui s'endort en regardant le baseball. Je suis un grand mâle figé dans les feux du Lascar. Je suis une piqûre de guerre dans une fête d'enfants. Je suis un voilier qui dérive dans la baie de l'Africain. Je suis une balade métal des années 80. Je suis le Don Quichotte des escaliers mécaniques. Dernier autobus sur le boulevard du souvenir. Je suis un char abandonné, calciné dans une forêt de conifères. Je suis une fille dans un costume de crocodile. Je suis une perchaude qui brille au fond d'un pédalo. Je suis Jean le Baptiste, je me jette à l'eau. Pardonne-moi si je suis flou, si je m'éparpille tout partout dans ton appart, et si je brouille le portrait. Redonne-moi une gorgée, faut pas qu'on gaspille les vertiges, la beauté des corps en perte d'équilibre. Et quand le manège s'arrête, je suis un gars tout nu qui cherche ses lunettes.
Philippe B et sa chanson Autoportrait sans lunettes.
On va rebâtir Nancy Massicotte dans le Nouvel East. Un incendie a ravagé le bateau pirate et les jeux d'eau du camping Automac à Lac à la Tortue au cours de la nuit de mercredi à jeudi. À l'approche d'un long week-end qui sera marqué par la canicule, la destruction de l'attrait principal du camping survient à un bien mauvais moment. Mercredi matin, la piscine, qui n'a pas été touchée par les flammes, était évidemment fermée en raison des débris de l'incendie. Comme l'a expliqué Soigny Dumas, propriétaire et gérante, il faudra faire un gros ménage avant de la remettre en fonction. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de dire si la piscine sera prête à temps pour le week-end. Nous attendons toujours des réponses de nos assureurs et des experts en sinistre qui sont sur place. Sinon, soyez assurés que nous allons nous organiser. Nous allons ouvrir notre section plage sur le lac, a-t-elle annoncé. Rappelons que les flammes ont pris naissance dans le bateau pirate vers 3h45 dans la nuit. Un autre campeur est venu cogner à ma porte pour me dire que le feu était pris dans le bateau. Peu de temps après, tout le monde était dehors pour regarder l'incendie. Heureusement pour nous, il n'y avait aucune inquiétude à avoir pour nos installations. En 90 minutes, tout était fini. C'est juste plate pour les gens qui aiment se baigner, a raconté Gaston Brière, un campeur saisonnier au camping Automac depuis une vingtaine d'années. En effet, le feu n'a fait aucun blessé et n'a nécessité aucune évacuation. L'un des copropriétaires, Donalie Dumas, était en train de nettoyer les lieux jeudi matin. En quelques minutes, le feu était pris partout dans la structure. Nous avons utilisé notre camion-citerne en attendant l'arrivée des pompiers. Le camping Automac compte près de 500 emplacements, dont 260 sont occupés présentement par les saisonniers. Avec le début des vacances et le congé férié, Mme Dumas s'attendait à afficher complet au cours des prochains jours et recevoir plusieurs campeurs occasionnels. Oui, on s'attend à des effets négatifs, mais on va essayer de s'organiser pour tout régler le plus rapidement possible. La cause de l'incendie est considérée comme accidentelle, une défectuosité mécanique ou électrique pourrait bien être à l'origine des flammes. Notons qu'une quinzaine de pompiers de la ville de Shawinigan ont participé au combat contre l'élément destructeur. Dans la tribune, l'entreprise sherbrookoise Tekna, qui se spécialise dans la fabrication de poudres métalliques de haute qualité, a annoncé jeudi des investissements de 128,4 millions et la création de 170 emplois dans le cadre d'un plan stratégique ayant pour objectif d'occuper une place importante dans le marché mondial de l'impression 3D, 3 dimensions, et de la microélectronique. L'entreprise, qui a vu le jour entre les murs de l'Université de Sherbrooke en 1990, est en pleine expansion. Une cinquantaine d'emplois ont été créés au cours de la dernière année et ses installations du parc industriel de Sherbrooke font présentement l'objet d'importants travaux d'agrandissement afin d'accroître sa capacité de production. La technologie 3D nous amène à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle et nous entendons faire partie de cette nouvelle révolution, a expliqué en entrevue le président-directeur général de Tekna Systems Plasma, Luc Dionne, au sujet des objectifs visés par cet investissement. Dans le quotidien, Charles Hudon reste positif. Charles Hudon était aux premières loges lorsque le Canadien de Montréal a conclu la saison 2017-2018 avec la 28e pire fiche de toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. À sa première saison dans le grand circuit, le patineur d'Alma avait probablement rêvé d'un meilleur scénario. Malgré tout, il retire des éléments positifs de son baptême dans la LNH, convaincu que des jours meilleurs sont annoncés dans la métropole québécoise. On va s'améliorer, c'est sûr et certain, a dit celui qui vient tout juste d'avoir 24 ans, rencontré jeudi matin en marge de la classique de golf pour la Fondation Charles Hudon. Marc Bergevin l'a dit, il faut avoir la bonne attitude, a ajouté Hudon. À partir de là, les choses vont changer. On verra au mois de septembre, mais j'ai déjà hâte de me présenter à Brossard pour le camp d'entraînement. Après avoir fait ses classes dans la Ligue américaine, notamment à St. John's Terre-Neuve, où il passait incognito la plupart du temps, Charles Hudon a découvert la jungle médiatique de Montréal au cours de la dernière saison. Il a assuré ne pas avoir eu trop de difficultés à s'adapter, rappelant que son passage avec les Saguenayens pendant plus de 3 saisons lui avait servi. « J'ai vécu un peu la même situation lorsque je suis arrivé avec les Saguenayens à l'âge de 15 ans, alors qu'il y avait une forte présence médiatique », a fait valoir Hudon. « Je suis quelqu'un de terre à terre, quelqu'un de familial, donc ma famille était là lorsque j'avais un peu plus de difficultés. » C'est de cette façon que je l'ai vécu et ça m'a aidé. Je suis satisfait de ma première saison à Montréal. C'est sûr que j'aurais voulu en faire plus pour l'équipe, mais j'ai adoré faire partie de l'organisation pour une première saison complète. Auteur d'une fiche de 10 buts et 20 passes en 72 rencontres, Charles Hudon avoue avoir eu du mal à gérer les nombreux voyages d'un joueur de la Ligue nationale. Oui, les voyages en avion sont exemplaires, mais on arrive tellement tard et on joue souvent la même journée, a-t-il mis en contexte. C'était difficile mentalement et c'était aussi difficile de récupérer. J'ai pris beaucoup d'informations et je vais être meilleur la saison prochaine. Et dans le droit, Place des Pionniers croulera sous le pic des démolisseurs. Le conseil municipal de Gatineau vient de signer l'arrêt de mort de l'édifice Place des Pionniers. Réunis en comité plénier jeudi, les élus ont pris une décision qui aura des effets à long terme dans le cœur d'Elmer. Le conseil a d'abord décidé à l'unanimité de mettre au rancard le projet de l'ancien conseil qui prévoyait la construction de la nouvelle bibliothèque Lucie Farris à côté de la piscine Paul Pelletier sur la rue Fraser. La future bibliothèque Lucie Farris sera finalement reconstruite sur son site actuel au 115 rue principale une fois que l'immeuble qui l'abrite, Place des Pionniers, aura été jeté à terre par les démolisseurs. L'administration doit revenir au conseil en janvier 2019 avec des scénarios de relocalisation des activités qui ont actuellement lieu dans cet édifice, ainsi que des modèles d'affaires pour la construction d'un nouvel immeuble signature multi-usage. Les problèmes de Place des Pionniers sont connus depuis longtemps. L'administration a révélé jeudi que 19 études, expertises et inspections structurales réalisées depuis 1999 viennent essentiellement toutes aux mêmes conclusions. L'immeuble est mal conçu et sa capacité portante présente d'importantes faiblesses. La situation est telle que le quart de l'immeuble ne peut pas être utilisé. Il en coûterait près de 18 millions de dollars uniquement pour renforcer ses fondations et ses travaux n'augmenteraient en rien la durée de vie utile de l'édifice. Le conseil est venu à la conclusion qu'il fallait en finir. Les premières estimations très préliminaires données par l'administration indiquent qu'une dépense d'environ 55 millions serait nécessaire pour démolir et reconstruire un bâtiment multifonctionnel de 4 étages. Et dans le soleil pour terminer, depuis 5 ans qu'ils colorent le secteur du Vieux-Port, les passages insolites ont certainement fait leur marque pour leur côté étonnant. Cette année, le côté ludique est plus que jamais présent entre des œuvres qui remontent le temps et d'autres qui sont des odes au futur, sans compter certaines œuvres chouchous des dernières années qui sont disséminées à travers la ville. Cette année, c'est la 5e édition, j'ai été le premier surpris de le constater. Ce n'est pas une grosse machine commerciale, c'est un projet qui a tranquillement pris sa place dans la ville auprès des citoyens et des touristes qui, je pense, va prendre de plus en plus de place dans l'avenir, a lancé Vincent Roy, directeur général chez Ex-Muro et directeur artistique du projet. C'est devenu une signature particulière de la ville de Québec et c'est ce qui me touche. Et pour votre information, les passages insolites sont présentés jusqu'au 14 octobre 2018 à l'angle de Dalhousie et du correcteur du littoral. Au Parc de la Défense nationale. Vous écoutez le quotidien des quotidiens, Hélène Denis qui vous accompagne. Merci d'être là en ce vendredi chaud, 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 qui annonce une fin de semaine chaude, chaude, chaude. Alors, vous serez prévenus, on en parle partout, de toute façon.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Take Ici c'est pas paradis, ça va tellement vite, même pas le temps de voir ses amis. Et chaque jour c'est la routine. Mets ton boulot dodo, boulot mets trop dodo, dodo mets trop boulot. Boulot dodo, boulot mettre au dodo, dodo mettre au boulot. Mettre au boulot dodo, dodo mettre au boulot, boulot mettre au dodo. Jomina, Jomina, Jomina,
les frères Guizé, leur chanson Métro, Boulot, Dodo.
Actualité culturelle, je lisais tantôt un passage d'un article du Soleil, passages insolites justement, passé étonnant et futur ludique. C'est une exposition d'œuvres, des œuvres qui colorent le secteur du Vieux-Port. Alors, je vous parlais du parc de la Défense nationale à l'angle de Dalhousie et du corridor du littoral. Ce n'est qu'un lieu qui donc accueille une partie des œuvres des passages insolites, les piliers du post-postmodernisme du collectif Le Gaga est au parc de la Défense nationale. Festival international de jazz de Montréal, ça se poursuit, c'est commencé depuis hier, alors pendant au moins une bonne dizaine de jours. La valeur sûre, c'est dans le devoir d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de suggestions. Ici, on parle de la valeur sûre Ry Cooder. Tout le monde connaît le guitariste Ry Cooder pour son travail avec le Buena Vista Social Club. Fort bien, mais Cooder est tellement plus que ça. Formidable guitariste avec Ali Farka Touré notamment. Producteur célébré, le musicien sera à Montréal avec son propre matériel, gospel, blues et R&B. poussé avec le trio de chanteurs de Hamilton ou The Hamilton, Hamiltons, H-A-M-I-L-T-O-N-E-S. Si ça promet, oui, c'est au Théâtre Maisonneuve à compter de 20 heures. La découverte maintenant, toujours une suggestion du Devoir, Mélissa Lavaux. Un bijou pop, a écrit un collègue du Devoir en parlant du nouvel album de la Montréalaise d'origine Mélissa Lavaux, qui habite Paris et a des racines haïtiennes. Sur des chansons créoles traditionnelles datant souvent de l'occupation américaine de 1915 à 1934, les rythmes sont irrésistibles, les refrains sont mémorables, la voix envoûtante. C'est à la 5e salle de la Place des Arts à 19h. Quelques photos avec beaucoup de sourires. Un couple de Montréalais a eu toute une surprise dimanche dernier en croisant Adam Sandler devant l'hôtel Mount Stephen où leur mariage était célébré. Alexandra Steinberg et Kevin Goldstein ou Goldstein prenaient la pose pour leur photographe lorsque la mariée aperçut le comique sur la terrasse avoisinante. Elle lui a fait de grands signes de la main et il est venu les voir. Il a été très gentil, raconte au journal Sana Belgo, l'auteur de ces clichés, donc les photos qu'elle a envoyées au Journal de Montréal. Le comédien a passé quelques minutes avec le couple pour les féliciter et discuter avec eux avant de quitter les lieux. Adam Sandler est présentement dans la métropole pour le tournage de Murder Mystery aux côtés de Jennifer Aniston, Gemma Arterton, Luke Evans, Terrence Stamp et Danny Boone sont également de la distribution de cette comédie, attendue sur Netflix dans quelques mois. Depuis son arrivée à Montréal il y a 2 semaines, Adam Sandler a été aperçu à différents endroits, dont le YMCA du centre-ville. Ses co-stars, elles, se sont faites plus discrètes. Seal a conquis près de 3 000 fans montréalais hier soir. Quelques secondes, voilà le temps qu'a mis Seal à charmer une salle Wilfrid Pelletier pleine à craquer hier soir. Le chanteur britannique a sorti certains des plus gros canons du répertoire jazz classique, mais également plusieurs de ses succès pour faire vibrer quelques 3 000 fans visiblement conquis. Alors, c'est un spectacle à l'affiche dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal dès les premières notes de « Luck Be a Lady ». Il était clair que l'opération Charme opérait déjà. Très chic dans son costard noir, Seal a lancé un « Salut Montréal » puis un « Salut mes amis », tous deux dans un français impeccable. La communication était déjà parfaite, la communion était déjà parfaite et elle n'a pas flanché une seule seconde. Évidemment, une bonne portion de la soirée a été consacrée au classique jazz que Seal revisite sur son plus récent album intitulé « Standards ». Petite Vallée a le cœur à la fête. Malgré les épreuves, le Festival en chanson a pris son envol hier soir pour la 36e reprise de l'événement phare. Après des mois d'incertitude à la suite de 2 incendies qui ont secoué la communauté, le Festival en chanson de Petite Vallée a enfin pris son envol hier soir. Les premiers à fouler la scène du chapiteau québécois, la petite école de la chanson. À quoi ça sert la musique? Ça sert à chanter avec le cœur, a lancé Daniel Vaillancourt, chef de chœur de quelque 250 enfants. Elle et sa collègue Myriam Brousseau en sont à leur 27e édition de la Petite École. C'est un exercice de relève exceptionnel de voir tous les enfants. Ils sont enthousiastes et ils ont du plaisir. Alors, on voit aussi une photo, quelques 250 jeunes de la Petite École de la chanson en compagnie des passeurs de la 36e reprise du Festival en chanson de Petite Vallée. Marie-Pierre Arthur et Louis-Jean Cormier. Il n'y a pas que les adultes qui peuvent profiter du pique-nique électronique. Les petits auront aussi leur terrain de jeu sur le site à partir de dimanche, juste à temps pour la canicule qu'on prédit historique. Dans un espace nouvellement réaménagé, les enfants pourront s'adonner à des jeux de piste, s'abandonner à la lecture, s'initier à la musique, façon DJ, ou tenter quelques pas de danse, le tout sous la baguette de l'équipe du festival Soir. Tous les dimanches, de 14h à 19h, du 1er juillet au 2 septembre, au parc Jean-Drapeau. Le Musée des beaux-arts de Montréal a annoncé cette semaine l'ouverture du cinéma du musée au sein de l'auditorium Maxwell Cummings à compter de la fin du mois de septembre. Souhaitant bonifier son offre culturelle pluridisciplinaire, le musée s'est associé pour ce faire à l'équipe du cinéma Beaubien. L'auditorium sera restauré pour permettre d'accueillir des équipements de projection dernier cri, notamment le format DCP, Digital Cinema Package, qui assurera une projection numérique de très haute résolution et un projecteur au laser à la fine pointe de la technologie offrant une qualité d'image supérieure. L'auditorium continuera d'accueillir les conférences et les autres activités culturelles du musée. Alors, si vous ne le saviez pas, c'est que vous dormiez, mais la chute de l'Empire américain, le plus récent film de Denis Arcand, prend l'affiche aujourd'hui même. Mais c'est vrai, pour être encore plus franche, ça a pris l'affiche hier soir à 19h. On ne pouvait pas le voir dans le jour, mais à compter de 19h hier soir, peut-être que vous l'avez déjà vu, qui sait. Alors, le film, on en parle dans les journaux, on a fait des critiques, j'en vous en ai lu une très positive récemment de François Lévesque dans Le Devoir. Et puis, Marc-André Lucier, lui, accorde 3,5 étoiles à cette comédie dramatique. Et il intitule sa critique « Du Arcand pur jus ». Allons-y maintenant avec le documentaire musical « Grace Jones, Blood, Light and Bami » de Sophie Fiennes, ou Fiennes, avec Grace Jones, Jean-Paul Good et Sly and Roby. La réalisatrice Sophie Fiennes, c'est Luc Boulanger qui écrit la chronique dans le journal, pas le journal, mais oui, le journal La Presse, si je peux dire, La Presse Plus. Alors, la réalisatrice s'est effacée carrément derrière son sujet. Durant 2 heures, sa caméra se colle à l'artiste, la poursuit dans ses moindres gestes et déplacements, jusqu'à ses conversations téléphoniques qui sont filmées durant de longues minutes. Le résultat est à la fois irritant et fascinant. Grace Jones est un documentaire trop long, trop impressionniste et trop électique. Toutefois, à défaut de nous donner les clés pour connaître et comprendre la chanteuse, le film synthétise l'univers de l'artiste, qui se résume ainsi. Là où il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de création. Elle vient de loin, l'Amazing Grace, d'une famille très religieuse, d'une famille très religieuse et pauvre de la Jamaïque, terrorisée par un père violent. Même s'il est mort, sa présence se fait sentir dans le film, lorsque Jones est sur les traces de son enfance à Spanish Town. « Quand je monte sur scène, je deviens mon père, dit-elle. Je me transforme en un personnage masculin, dominant, terrifiant. » Ne comptez pas sur la cinéaste pour vous donner des repères. Le film est sans narration, ni chronologie, sans erzègue, ni interview. C'est un flot d'images au vol, une bio-son-lumière. N'espérez pas non plus voir ou revoir ses débuts comme mannequin à Paris, sa rencontre avec Andy Warhol, et ses frasques au Studio 54 et ses performances au temps où Grace Jones était la reine du disco gay. Par contre, le film est généreux sur les prestations cyniques avec des tubes comme « Slave to the Rhythm »,« Pull up to the Bumper » ou « I Need a Man ». On la voit aussi en studio avec ses musiciens en train de réaliser un nouvel album de son cru, qu'elle finance de sa poche. Une artiste hors norme pour un film hors norme. On l'écoute dans sa version de « La vie en rose ».
tu vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
La vie en rose, Grace Jones.
Et la vie en lin aussi. Il fait chaud, vive le lin, à la fois noble et décontracté. Cette matière éco-responsable, fraîche en été et chaude en hiver, fait un retour en force. C'est dans la presse Pause. À la fois noble et décontracté, marginal et intemporel, le vêtement en lin renforce la personnalité de celui qui le porte. Cette matière éco-responsable, fraîche en été et chaude en hiver, fait un retour en force dans le secteur de la mode, chez les femmes comme chez les hommes. Fondatrice de Vivre en lin et propriétaire de deux boutiques situées à Hudson et à Sutton, Hélène Salmon-Tremblay crée des vêtements en lin et accorde plusieurs avantages à cette matière. D'abord, dans la fibre de lin, il y a de la silice qui supprime la croissance de bactéries et de moisissures. Le lin est grandement utilisé depuis des centaines d'années pour cette raison dans la literie, les vêtements et même dans les bandages pour aider la guérison des plaies. Ensuite, le lin est exceptionnellement fort, soit 4 fois plus que le coton, et il ne risque pas de pelucher. Il se teint magnifiquement et vieillit bien. Plus nous le lavons, plus il gagne en souplesse et devient confortable, indique Mme Salmon-Tremblay. Par ailleurs, même en hiver, compte tenu de ses propriétés thermorégulatrices, le lin est une meilleure option que le coton pour garder la chaleur sous un vêtement plus chaud. Une petite veste en lin peut même remplacer un manteau de mi-saison, renchérit Michel Secours, designer et fondatrice de Fret Design, ajoutant qu'en fonction de son épaisseur et de sa couleur, le lin a l'air ou non d'un vêtement d'hiver. C'est aussi une fibre très écologique qui peut pousser avec un minimum de pesticides, réclame peu d'eau et supporte les climats froids, ajoute-t-elle. Les deux femmes précisent que la production de coton et de la plupart des autres tissus est beaucoup moins écologique. Autre atout du lin, son look, ou plutôt ses looks. On pense d'abord à l'aspect léger et froissé donnant un style décontracté. Certains aiment, d'autres pas. Ces derniers l'apprécieront plutôt en version tricotée que tissée ou s'il est mélangé à d'autres fibres. J'utilise beaucoup de lin tricoté car il est moins froissable. On peut aussi choisir un mélange avec de la rayonne et du spandex afin d'obtenir une matière plus douce et qui se froisse beaucoup moins, poursuit Michel Secours. Le lin représente souvent la pureté, la propreté, la fraîcheur. Il est également considéré comme un tissu de luxe et de richesse, mais il devient de plus en plus accessible en raison de la demande. Il y a plusieurs nouveaux producteurs de lin sur le marché, donc une plus grande compétition pour en faire baisser le prix, dit Hélène Salmant-Tremblay. Comment entretenir des vêtements en lin? Laver les vêtements en lin en machine à l'eau froide, puis secouez-les très vivement et fortement après le lavage afin de les défroisser. Laissez sécher à l'air libre et battez de nouveau le vêtement une fois qu'il est sec. Et pour le rangement, évitez de repasser le lin parce que la fibre devient plus raide et crée des plis peu attrayants. Le vêtement se place naturellement bien une fois qu'on le porte. C'est aussi le cas pour les tissus mélangés. Des résidents de la région métropolitaine qui ne sont pas équipés d'un système d'air conditionné à la maison pourront, en prévision de la canicule prévue ce dimanche, se réfugier dans l'une des 500 chambres d'hôtel qui seront mises à leur disposition pour 99 $ dans 37 établissements membres de l'Association des hôtels du Grand Montréal. Cette initiative vise à héberger les gens pour la nuitée du 1er juillet. Il suffit d'appeler ou de réserver une chambre sur le site Internet d'un hôtel participant en ayant recours au code promotionnel, je vous le donne, AHGM, A majuscule, H majuscule, G majuscule, M majuscule. Les gens devront fournir un permis de conduire valide dont le code postal doit commencer par la lettre H. L'Association des hôtels du Grand Montréal a précisé hier que les réservations doivent être prépayées et qu'elles sont non remboursables en cas d'annulation. On va terminer avec un petit propos plutôt relax en cette période plutôt caniculaire. 6 terrasses exotiques où manger une bouchée cet été. Alors oui, prenez des notes, Mathieu. Boire un verre sur une terrasse, manger une bouchée en se faisant dorer la couenne. Le temps des terrasses est bel et bien arrivé et le beau temps nous donne envie de faire notre valise pour aller explorer des contrées lointaines. C'est Mélodie Lamoureux dans le Journal de Montréal. Heureusement, pas besoin de vider son compte en banque pour s'offrir une soirée exotique. De nombreuses adresses à Montréal vous permettent de savourer des plats typiques et de siroter quelques cocktails sucrés qui vous donneront l'impression d'être en vacances le temps d'un repas. Alors, allons-y avec la première terrasse, celle du restaurant Les Rites Berbères. En plus d'offrir une magnifique terrasse à sa clientèle, Les Rites Berbères est certainement le meilleur restaurant de la ville pour les amateurs de couscous. Le menu varié d'inspiration africaine est aussi composé de belles options pour les végétariens. N'oubliez pas d'apporter votre vin. 4697 rue de Billon, 600 rue William. Autre suggestion, l'escondite. Pour manger des mets mexicains fabuleux, boire de bons mojitos et prendre un bain de soleil, le restaurant Escondite est la place. La est écrit avec deux lettres majuscules. La place où aller. Assurez-vous de commander la salade de papaye, un pur délice. 1206 avenue Union et 1224 rue Drummond. Donc, deux adresses pour l'Escondite. Le Club espagnol du Québec. Si vous êtes un amateur de tapas, vous devez absolument goûter à la cuisine du Club espagnol du Québec. Ce restaurant semble être installé dans une immense cafétéria, mais il possède aussi une énorme terrasse souvent bondée où il fait bon boire un verre de sangria au soleil. 4388 Boulevard Saint-Laurent, confidence ici, c'est à cet endroit que j'ai célébré mon 40e anniversaire, il y a quelques années. Le Jardin de Panos. Si vous voulez déguster une bonne brochette de poulet grec sans vider votre portefeuille, c'est au Jardin de Panos qu'il faut vous rendre. Le restaurant Apportez votre vin de la rue du Lutte offre une cuisine abordable. Leur fabuleuse terrasse fleurie vous donnera l'impression de voyager le temps d'une soirée. 521 Avenue du Lutte Est. Agricole, Agricole écrit avec un K. La terrasse du restaurant Agricole risque de vous donner des envies d'Instagrammer toute la soirée. Ici, les cocktails sont délicieux et vous pourrez manger tout plein de plats haïtiens savoureux. C'est vrai que c'est magnifique. L'ameublement, donc, on dirait en osier, mais c'est en acier blanc. L'adresse, c'est le 1844 rue Amherst, Agricole, c'est tout près d'ici, Mathieu. Et on finit avec le Khyber Pass, situé sur l'avenue du Lutte. Le Khyber Pass attire les foules depuis des années. Son menu d'inspiration afghane est délicieux et vous pouvez même apporter votre vin. Leur terrasse est aussi très belle. En y mettant les pieds, vous aurez l'impression de voyager, c'est garanti. 506 Avenue du Lutte Est. C'est tout pour le quotidien des quotidiens. Étant donné que nous sommes vendredi, on termine à 11h30. Et du lundi au jeudi, je vous le rappelle, pendant l'été, ça se termine à midi. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable fin de semaine, pas trop crevante côté température, ce le sera, c'est sûr. Alors, il faut s'organiser pour être bien. Bon long week-end, bonne fête du Canada et gare au coup de chaleur. Bon déménagement aussi. Il y a Mathieu qui déménage avec un mal de dos. Alors, bon courage, Mathieu. On est avec vous. On se retrouve donc mardi. Bonne journée, bonne fin de semaine à vous tous.